La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Depuis une quinzaine d'années, un domaine émerge dans l'étude du cerveau, ce sont les neurosciences sociales. Cette science s'intéresse à l'étude des mécanismes physiologiques qui sont à la base de nos comportements sociaux. À partir des bases neurologiques, les chercheurs tentent de décrypter nos interactions sociales, comme par exemple l'attachement, l'empathie ou la coopération. Et dans la nouvelle génération de scientifiques qui travaillent sur ces questions, Guillaume Dumas mène ses recherches dans l'équipe de génétique humaine et fonctions cognitives à l'Institut Pasteur, où il a développé entre autres de nouvelles méthodes pour enregistrer par exemple de façon synchronisée le cerveau de deux personnes. Rencontre avec Guillaume Dumas dans un instant pour découvrir notre cerveau social et vous pouvez nous rejoindre avec vos questions sur le site de l'émission. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui à la une, on part sur les traces d'un gros guépard qui vivait il y a 1,5 million d'années en Europe.
Oui, un prédateur impressionnant qui a certainement montré les dents devant nos ancêtres Erectus. On mesure la taille de ses canines dans un instant avec le paléontologue Vincent Fernandez.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati avec Hannibal Wachi.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Villard sur France Inter.
Bonjour Guillaume Dumas.
Bonjour.
Bienvenue à vous. On va découvrir ensemble dans un instant donc les recherches que vous menez dans le champ des neurosciences sociales. Nous, êtres humains, sommes d'abord des êtres sociaux. Est-ce qu'on peut dire que notre survie dépend directement de nos interactions avec nos congénères ?
Je dirais que évolutivement, elle est devenue essentielle puisqu'on est loin maintenant d'être autosuffisant si on nous lâche comme ça dans la nature. Mais évolutivement aussi, on s'est socialisé de plus en plus et on n'est pas les seuls du règne animal en plus à avoir ces capacités-là. Mais on l'a clairement développé plus que nos congénères et nos frères chimpanzés et autres primates.
Voilà, on va explorer ça avec vous. Et puis toutes les études qui sont menées justement autour de ces interactions sociales dans différents domaines, on va vraiment avoir une étendue maintenant de ce champ avec vous et puis vous répondrez aux messages des auditeurs qui vont nous rejoindre sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Guillaume Dumas, à tout de suite. Un guépard italien vieux d'1,5 million d'années vient chasser aujourd'hui à la une de la science. Voilà. Et ça, c'est le guépard aussi, d'ailleurs, Axel.
Actuel, oui.
Qu'on entend.
Ça couine, un guépard.
Voilà, ce gros chat de 80 à 100 kilos que décrivent les chercheurs italiens et français. Cette semaine, dans la revue Scientific Report, des canines d'environ 7 cm de long, une mâchoire effilée mais puissante, une cavité nasale resserrée. Voici ce que le rayon X du synchrotron de Grenoble a permis de découvrir à l'intérieur de cette roche découverte donc en Italie dans les années 2000. Une imagerie en 3 dimensions de son crâne qui permet donc aujourd'hui de mieux comprendre les méthodes de chasse de ce carnivore du Pléistocène et dont on parle, Axel, avec notre invité.
On retrouve Vincent Fernandez en direct par téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue et chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Et c'est vous qui avez scanné ce crâne en 2015. Quelle taille fait le bloc de pierre dans lequel le crâne du gros félin est emprisonné ? On peut le dire comme ça, hein ?
Oui, c'est exactement ça. Alors, il fait... On a juste l'avant du museau, on manque la boîte crânienne, et il fait à peu près 10 cm de long pour c'est à peu près un bloc de 10 cm dans toutes les directions.
Donc c'est un caillou avec des dents qui dépassent ?
C'est à peu près ça.
Est-ce qu'avant de scanner le fossile au synchrotron, il était possible de dire de quelle espèce il s'agissait ?
Alors, pas vraiment. Donc on avait la plupart, donc c'est déjà un crâne qui est assez partiel. Et du coup, avec la roche qui recouvrait la plupart des caractères qui sont habituellement diagnostiques, on n'arrivait pas vraiment à savoir de quelle espèce il s'agissait. Donc les rayons X ont permis d'accéder à ces caractères qui étaient cachés sous la roche.
Donc vous avez pénétré la roche pour voir la structure osseuse à l'intérieur. Et du coup, vous découvrez ce jaguar. C'est une espèce qui était déjà connue. J'ai dit jaguar, c'est guépard. C'était une espèce connue ?
Donc c'est une espèce qui est connue dans de nombreux sites un peu partout dans l'ancien monde. On en a du Maroc jusqu'à la Chine, on en a énormément en Europe aussi. mais qui est c'est une espèce qui est très difficile à trouver complète. On a toujours que des petits fragments dans beaucoup de sites.
Et quand vous dites l'ancien monde, Vincent Fernandez, c'est quand, ça commence quand l'ancien monde et ça se termine quand alors pour ce guépard?
L'ancien monde, c'est plus pour le côté géographique, c'est l'Europe par opposition au nouveau monde, l'Amérique.
Et alors du coup, du point de vue chronologique, il commence quand? Quand est-ce qu'on sait un petit peu quand est apparu cet animal ou pas?
Oui, c'est les plus vieux sont un peu plus vieux, ont à peu près 2 millions d'années et ils ont disparu au moment de la dernière ère glaciaire. Donc il y a quelques dizaines de milliers d'années.
Ce qui est intéressant avec votre travail, Vincent Fernandez, c'est qu'à partir de l'avant d'un museau, vous êtes capable de dire comment ce félin chassé, chose qu'on ne savait pas avant. Alors expliquez-nous un petit peu la démarche derrière cette annonce que vous faites.
Alors notamment puisque c'est un représentant du genre des guépards, et les guépards ont une méthode de chasse qui est très particulière. Ils peuvent s'approcher doucement, ils se mettent à trottiner et d'un coup ils accélèrent, ils atteignent des pointes de vitesse de plus de 100 km/h et ils attrapent leur proie au cou et ils les tuent par strangulation. Mm-hmm. Donc c'est quelque chose qui est complètement différent des autres, des panthérinés, c'est-à-dire les tigres, les lions, les jaguars, qui eux vont plutôt favoriser les courses plus courtes déjà, et ils peuvent pas aller aussi vite, et ils vont mettre l'accent sur la puissance et essayer de tuer le plus rapidement possible, notamment avec l'aide de leurs grosses canines. Ils vont essayer de fracturer un morceau du crâne ou de s'insérer entre les vertèbres cervicales.
Et là, grosse surprise, ce guépard ne court pas si vite que ça, alors c'est quelque chose que vous annoncez dans la publication.
Exactement. Donc le guépard peut courir aussi vite parce qu'il est relativement léger. On a une moyenne de 40 kilos. Celui-là, vu les informations qu'on en a, on est plutôt sur une moyenne de 80 kilos. Donc on est un animal qui est deux fois plus gros. Le guépard aussi peut atteindre ses pointes de vitesse parce qu'il a une cavité nasale qui est extrêmement développée, ce qui lui permet de réguler sa respiration et sa température lors d'un effort énorme de cette accélération brusque. Il peut compenser la production de chaleur grâce à cette grande cavité nasale.
Ouais.
Celui-là, en étant beaucoup plus gros et en ayant une cavité nasale un peu plus réduite, ne pouvait certainement pas atteindre ses pointes de vitesse.
Ah oui, donc avec ce crâne enserré dans la roche, c'est ce que vous êtes capable de déduire. C'est vraiment la cavité nasale qui vous donne cette information.
La cavité nasale, et aussi, on a dans celui-là des canines qui sont plus grosses que chez les guépards actuels qu'on connaît.
Est-ce qu'il faut quand même continuer à l'appeler guépard préhistorique ou alors il faut que je trouve un autre nom?
Non, ça reste un guépard parce qu'il a des caractéristiques crâniennes qui sont typiques des guépards. Il a quand même un museau qui est beaucoup plus, qui est beaucoup moins développé que chez les autres félins. Les léopards ont un museau un peu plus allongé. Celui-là, il est beaucoup plus petit. Et donc, il a quand même ces caractéristiques-là. Il a le crâne qui est beaucoup plus courbé que les autres. Donc, c'est vraiment un guépard, mais avec une tactique de chasse qui est plus proche des autres gros félins qu'on connaît.
Est-ce qu'on a des fossiles ailleurs en Europe qui nous montreraient que ce guépard a côtoyé, je ne sais pas, des membres du genre Homo?
Ah oui, alors c'est une découverte qui avait été intéressante. C'est dans le site de Manissi, en Géorgie, où on a les premiers membres Homo erectus, qui sont donc la sortie de l'Afrique des hominidés, qui, sur le site où on a trouvé ces hominidés, on a aussi toute une association de très gros carnivores, dont ce guépard fossile, mais aussi avec des tigres à dents de sabre. On a plein de super prédateurs qui côtoyaient ces hominidés.
Que ce soit les félins ou les hominidés, les deux sont prédateurs. Est-ce qu'on sait lequel faisait fuir l'autre? Comment étaient les interactions entre ces différents animaux et humains?
C'est une question qui n'est pas encore tout à fait résolue. Ce qu'on sait, c'est que certainement, même l'Australopithèque en Afrique du Sud, il côtoyait des gros carnivores. Donc c'était pas quelque chose qui était nouveau, mais c'est vrai que on est peut-être encore un peu tôt dans l'histoire des hominidés pour qu'ils aient été une véritable menace pour ces gros carnivores. Donc la balance penchait peut-être encore plus pour les gros carnivores à cette époque-là.
Et plus tard dans l'histoire des hommes, on a commencé à savoir les intimider et à les faire fuir, c'est ce que vous voulez dire?
C'est ça, avec le développement d'outils plus sophistiqués, avec la maîtrise du feu, avec le développement de tactiques de chasse notamment. Enfin, à cette époque-là, c'était peut-être encore un peu tôt pour ne serait-ce que ce qu'on appelle les tactiques kleptoparasites, c'est-à-dire de voler la nourriture en chassant l'animal qui a tué la proie. Donc c'était peut-être un peu tôt pour les humains d'essayer de chasser ces gros carnivores pour leur piquer leur nourriture.
Est-ce que vous en avez un spécimen au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, Vincent Fernandez, où vous travaillez?
Ah, c'est quelque chose que j'ai pas vérifié.
Ah, ben
peut-être.
Vous regarderez.
On a des collections qui sont fabuleuses, donc je serais pas étonné qu'on ait un représentant ici. Oui.
Merci beaucoup en tout cas. Et ça, c'est les travaux donc qui ont été réalisés grâce au rayon X du synchrotron. Merci beaucoup Vincent Fernandez et puis Axel. On se retrouve demain pour une nouvelle une.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour la première fois, des chercheurs ont réussi à créer des neurones dans un cerveau de souris. Ces chercheurs de l'université de Pékin ont utilisé un mélange de médicaments pour modifier la conformation des cellules particulières nommées astrocytes afin qu'elles se transforment en neurones. Ces cellules en forme d'étoiles sont intéressantes car très nombreuses et capables de survivre longtemps dans le cerveau. Pour l'heure, l'équipe cherche à savoir si les neurones obtenus sont fonctionnels. Si tel est le cas, ce serait une grande avancée pour les traitements potentiels contre Parkinson et Alzheimer. Quelle température fait-il dans une voiture garée au soleil? Voici la très sérieuse étude qu'ont réalisé des chercheurs de l'université d'Arizona visant à comparer la chaleur dans différents modèles de véhicules. Même à l'ombre d'un soleil de 38 degrés Celsius, la cabine d'une voiture économique grise chauffe à 38 degrés en moins d'une heure. Le tableau de bord atteint les 48 degrés, 40,5 degrés pour les sièges. En plein soleil, le tableau de bord d'une voiture peut atteindre en une heure les 70 degrés. Des températures suffisamment importantes pour provoquer l'hyperthermie chez les enfants, une mort rapide. Aux États-Unis, 37 enfants meurent chaque année dans ces conditions. Et puis il sera bientôt possible pour les jardiniers amateurs de se procurer d'anciennes semences jusque-là interdites à la vente. La mesure visant à rétablir la possibilité de vendre aux jardiniers amateurs des variétés de semences relevant du domaine public a donc été validée ce lundi par l'Assemblée nationale après 2 années de censure et de lutte. Allez, les interactions sociales et notre cerveau, c'est le dossier de la tête au carré dans un instant. My enemy, so stay away from me. I'm warning you. You try to fill the void with every man you meet, 'cause you're upset with me. I'm warning you. 'Cause all the nights you slept alone, drying your You. C'était The Weeknd à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Guillaume Dumas, vous êtes avec nous, chercheur à l'Institut Pasteur dans cette équipe de génétique humaine et fonction cognitive où vous étudiez entre autres les bases neurogénétiques de l'autisme, mais pas seulement. On va parler de beaucoup de choses avec vous. Vous êtes notre invité pour nous faire justement découvrir les travaux qui sont menés autour des interactions sociales. On va essayer de comprendre avec vous justement comment cette science, à partir donc de fondements neurologiques, peut étudier par exemple l'attachement, l'empathie, la coopération entre les individus. Mm-hmm. Et vous allez répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. C'est aussi l'occasion de faire connaissance avec un jeune chercheur qui s'occupe aussi de ce domaine particulier des neurosciences sociales. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on évoque les neurosciences sociales alors ?
Eh bien, on essaye de comprendre comment notre cerveau nous permet de faire sens des autres. Et ce qui est intéressant avec les neurosciences sociales, c'est que ça nous met face au fait que la cognition humaine, elle est en sandwich entre la biologie et les interactions sociales. Mmh. Et donc, on est à la fois dans une base, un ancrage dans les bases biologiques, ouais, mais aussi à l'acceptation qu'il y a une part de notre cognition qui est façonnée par les interactions avec les autres.
Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus impalpable, on pourrait dire. C'est une essence.
C'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à saisir, ouais, hein, à saisir, je pense, et surtout qui fait appel, du coup, à embrasser l'interdisciplinarité. Et du coup, par exemple, moi, dans le cadre de ma thèse, c'était collaborer avec des psychologues du développement, des neuroimageurs, des gens qui faisaient du traitement du signal, etc.
Donc là, on essaie de mettre de la biologie, finalement, dans ces concepts-là.
Alors, soit de la biologie dans la socialité, soit de la socialité dans la biologie.
Exactement.
C'est bidirectionnel aussi.
Ça va dans tous les sens.
Et mais historiquement, ce qui est intéressant aussi, c'est que on avait, tout à l'heure on disait 15 ans, même on pourrait remonter à 25-30 ans, déjà des personnes qui essaient de comprendre la socialité et ses bases biologiques. Et en fait, les premières études étaient centrées sur la perception sociale, comment justement on fait sens des stimulus sociaux, des stimulus sociaux. Mais dernièrement, et c'est ce qui a occupé ma thèse et après, on a eu tout un champ de recherche sur l'interaction. Et vraiment, qu'est-ce qui fait qu'il y a aussi une composante interactionnelle forte.
Ça c'est absolument passionnant, on va en discuter avec vous, parce que vous avez mené des expériences sur la douleur, par exemple, qui sont hyper intéressantes. On le voit entre deux personnes, un couple, et justement comment l'empathie peut jouer sur un effet analgésique. Et donc ça c'est absolument passionnant, on va décrire ça tout à l'heure aux auditeurs. Un mot sur votre parcours, Guillaume Dumas, parce qu'il est aussi intéressant. Vous commencez avec la physique fondamentale, c'est ça ?
Oui, j'étais entre l'école d'ingénieur et Orsay, physique fondamentale.
Donc comment on commence avec de la physique fondamentale pour arriver au cerveau et à l'empathie, par exemple ?
C'est une grosse histoire. Bah, j'ai été influencé par mon père qui est physicien, mais lui dans le micro, moi je voulais faire de la cosmologie et plutôt du macro. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que, vu que j'étais impliqué dans les associations et que j'aimais être en interaction avec la société, que les sciences cognitives, c'était un domaine propice aussi à remplir des questions fondamentales et que c'était passionnant. Ouais. Donc du coup, j'ai lu et j'ai bifurqué sur sciences cognitives et
neurosciences. Donc c'est amusant parce que vous auriez pu étudier les milliards de galaxies, par exemple, en astrophysique, et vous étudiez les milliards de neurones, finalement. Il y a quelques similarités, non ?
Il y a des similarités, oui. Bah, de toute façon, en plus, j'ai gardé quand même un côté physicien fort où, pour moi, les différentes échelles de description peuvent être en dialogue. Et les méthodes, par exemple, d'études qu'on peut utiliser dans une discipline peuvent être extrêmement efficaces pour débloquer des problèmes dans une autre discipline. Et ça, c'est justement quelque chose qui est très dans les mathématiques et la physique. On est habitué à jongler avec ce genre d'approche.
Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de caractériser ce qui se passe en science aujourd'hui ? C'est que justement, tout se mélange, il y a de l'interdisciplinarité et que c'est ça qui est très fructueux, justement, pour aller sur les chemins de la découverte.
Dans les faits, moi j'adore l'interdisciplinarité et j'essaye de la développer au maximum. J'ai la chance en plus d'être dans le laboratoire de Thomas Bourgeon qui facilite ça. En pratique, c'est quand même encore très délicat parce qu'il y a un discours qui est laudatif sur l'interdisciplinarité.
Pour favoriser l'interdisciplinarité. Après, il faut des moyens.
Après, il y a des moyens et puis il y a des questions de valorisation et de métriques, d'évaluation, etc. qui font qu'on retombe sur des sections disciplinaires dans les corps corps institutionnel, etc.
Bien sûr. Ouais, c'est compliqué parce que comment définir avec quelle discipline en particulier on aimerait travailler ? Ça doit être une des problématiques, non, j'imagine, pour vous.
Niveau les interlocuteurs, c'est un problème. Ouais. Faire dialoguer, justement, pendant ma thèse, c'était entre des physiciens de la théorie du chaos et des psychologues du développement qui parlaient avec des termes, des mots. On voit la finitude des mots, d'ailleurs, dans leur sens, avec, par exemple, le mot synchronisation. Synchronisation, le physicien, il voit des oscillateurs, il voit des pendules qui sont synchronisées. Le psychologue du développement, il voit le bébé qui fait de la synchronisation avec sa maman. Et pourtant, c'est les mêmes phénomènes physiques qui peuvent être sous-jacents. Mais c'est derrière les termes, on a toute une expérience et aussi une sémantique différente.
Et la synchronisation dont on va parler avec vous, c'est celle des cerveaux, justement.
Justement, ouais. C'était un peu le fil rouge, justement, pour lier neurones et interactions sociales. C'était cette synchronisation.
On a reçu quelqu'un ici qui s'appelle Alain Berthoz, que vous avez bien connu.
J'ai commencé
évidemment
dans son labo. Ouais.
Et on avait fait une émission autour de la simplexité. Vous nous rappelez ce que c'est que ça exactement ?
Alors, je ne sais pas trop vraiment si j'arriverais à définir la simplexité aussi bien que lui, puisqu'il a conçu ce concept. Ouais. Moi, j'étais plutôt dans la théorie de la complexité. Ouais. Mais je pense que ce qu'il entend par simplexité, c'est le fait que quelque chose qui peut paraître compliqué en apparence dans un système, une fois qu'on a compris comment des règles simples par l'interaction de plein d'entités fait émerger des comportements plutôt complexes, on peut resimplifier cette complexification. Enfin, que
est-ce que vous auriez un exemple précis
très simple, c'est les vols d'oiseaux ou de bancs de poissons, où en fait on va avoir des comportements extrêmement complexes au niveau dynamique, il va y avoir des trajectoires magnifiques, parce qu'on voit les oiseaux migrateurs par banc comme ça. On a vu que mathématiquement, avec des petites règles simples, comme quoi l'oiseau va prendre la direction moyenne de ce qui l'entoure, il va éviter de pas rentrer dans l'oiseau voisin, etc. Avec des petites règles comme ça, on peut arriver à faire des simulations qui reproduisent les mêmes schémas, les mêmes motifs dynamiques.
Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de vous intéresser à la navigation spatiale chez l'humain ou pas ? Est-ce qu'il y a pu avoir un rapport ?
Non, à la base, c'était vraiment purement la découverte des sciences cognitives à cette époque-là. En plus, il y avait une plateforme de réalité virtuelle qui était en train d'être mise en place. Donc, c'était les débuts de l'usage de la réalité virtuelle en sciences cognitives. Et venant d'école d'ingénieurs, je me suis retrouvé à installer cette plateforme et comme la thématique du laboratoire était sur la navigation, voilà.
Ouais, donc ça, c'était à peine une dizaine d'années, c'est ça ?
C'était en 2007.
Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que vous faisiez avec cette plateforme de réalité virtuelle, alors exactement ?
Assez marrant de revenir à cette époque-là. Eh ben, on travaillait avec un postdoc allemand sur la différence entre la planification d'une trajectoire suivant un raisonnement de navigation incarnée où on marche, par rapport à une navigation sur un écran où on voit une carte et voir les trajectoires et les stratégies qui étaient en place. Et moi, je me rappelle d'ailleurs, c'était une étude qui n'a jamais été publiée parce que c'était au tout début, j'étais même pas en master. J'avais invité des collègues plutôt informaticiens, ingénieurs d'un côté et plutôt artistes, danseurs de l'autre.
Ah oui.
Et en fait, on voyait déjà qu'il y avait des différences de trajectoire entre les deux types de personnes. Donc c'est marrant parce que ça questionnait déjà un peu une forme de normalité et qu'on pouvait avoir une sorte de solution optimale qui correspondait à tous les êtres humains, entre guillemets. Quoi.
Alors 2011, c'est la soutenance de votre thèse, c'est ça, hein, sur justement les neurosciences cognitives. Et le sujet, ce sont les interactions sociales que vous choisissez.
Voilà, donc c'était une thèse justement entre le centre émotion avec Jacqueline Adel sur des questions de synchronisation dans le développement de l'enfant et le laboratoire LENA qui est devenu après Cogimage au sein de l'ICM. Où c'était le laboratoire d'électroencéphalographie et de neurophysiologie appliquée.
Ouais.
Donc plutôt justement imagerie cérébrale et dynamique neuronale. Et l'idée donc c'est les dynamiques neuronales de l'interaction spontanée chez l'humain.
Ouais.
Donc comment faire le pont entre les dynamiques dans le cerveau où des zones entre elles peuvent se synchroniser avec des oscillations électriques.
C'est entre deux personnes ?
Non, déjà,
dans un seul cerveau.
Personne. Ça c'était les travaux pionniers de Francisco Varela justement dans ce laboratoire. Et ma thèse faisait suite à ces travaux-là, en étendant cette idée que l'information s'intégrait par la synchronisation des phases des oscillations entre deux cerveaux plutôt qu'entre deux aires d'un seul cerveau. Alors, le substrat biologique n'est pas le même, mais par contre, ça fait appel à des méthodes déjà d'analyse du signal similaire. Donc, j'ai recyclé même des scripts qui dataient de l'époque de Varela, c'était assez marrant, pour faire les analyses à l'échelle inter-individuelle. Et après, ça posait aussi la question de comment faire ça en pratique.
Alors, justement, et là, vous avez inventé des nouvelles méthodes pour pouvoir mettre ça au point.
J'ai repris, en fait, une méthode qui s'appelle l'hyperscanning, qui avait été proposée par un Américain, Reed Montagu, à Caltech, qui lui avait fait ça avec des IRM, donc avec des imageries à résonance magnétique, donc d'où le nom scanning, et hyper parce qu'il y en avait deux ou plus. Et nous, on a monté du coup à Paris la première plateforme en France d'hyperscanning EEG, où on synchronisait l'enregistrement en électroencéphalogramme de deux personnes simultanément.
Ouais. Concrètement, ça se passe comment ? Ils ont un bonnet chacun sur la tête,
voilà, ils ont un
avec
bonnet,
des capteurs
avec des capteurs qui enregistrent le champ électromagnétique, en l'occurrence électrique, qui sort du crâne. Et en fait, on avait synchronisé ça avec des fibres optiques pour avoir le moins de latence possible. Mm-hmm. On a une sorte de clap comme au cinéma pour dire on enregistre maintenant, hop, et après, on pouvait réaligner les signaux des deux cerveaux l'un par rapport à l'autre et voir dans quel cas il y avait des synchronisations qui apparaissaient.
Mais c'est la première fois qu'on faisait ça ?
Alors,
le fait d'étudier deux cerveaux ensemble.
Il y a eu deux personnes qui ont fait ça en 1965, une publication dans Science, deux ophtalmos, d'une et d'une, je crois, qui avaient un peu lancé l'idée d'enregistrer deux cerveaux, mais malheureusement pas pour la bonne chose, parce que c'était pour démontrer la télépathie chez les jumeaux.
Ah oui.
Chose qui n'a pas été répliquée à ma connaissance, du coup. Mais ça avait fait Science, d'ailleurs. C'est assez marrant, hein. On voit les différences de standards d'une époque à une autre. Et je pense que, du coup, ça a jeté un froid.
Plus personne n'osait mettre le pied là-dedans.
Ouais, voilà, exactement.
Ah oui, donc il a fallu attendre
les parapsychologues.
Ouais.
Et Reed Montag, en le faisant avec l'IRM, du coup, a rétabli un peu la méthode, l'idée.
Ouais.
Et après, il y a Babylonie à Rome, qu'il avait fait avec des gens qui jouent aux cartes, enregistrer quatre personnes simultanément en jouant aux cartes. Mais alors là, on était sur une interaction très scriptée par le jeu de cartes, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le couplage, comme chez l'enfant avec ses parents, pour en absence totale de synchronisation extérieure, de métronome ou de quelque chose qui pourrait diriger cette synchronisation.
Bah, vous avez fait des travaux, par exemple, chez des couples d'amoureux autour de la douleur. On va en parler avec vous dans un instant. Ce sera une illustration, justement, de ces sujets que vous menez, Guillaume Dumas. Vous êtes notre invité cet après-midi dans La Tête au Carré.
Blue Marilyn, jaune sous-marine dans le périscope. Full screen, les saintes comme les salopes. Tout est pop. Le visage de Grégory ou la Joconde de Vinci. Tout est pop. Que tu le préfères, Iggy, cru, bien cuit ou Satori. Tout est pop. Tout est pop. Regarde autour de toi. Hilton dans le grand melting pop. Tout est pop. Rocco baroque, Barthes ou Bartok, Saint-Thérèse ou Saint-Trope. Tout est pop. Hollywood, cinémascope ou underground sous psychotrope. Tout est pop. Ça se télescope non-stop dans le kaléidoscope. We'll be right back.
because I think that's what art is. It's entertainment and pleasing people.
Can anybody be an artist?
Yeah, if you say one day I want to be an artist, you just decide to be an artist.
Cet extrait de son dernier album, Alain Chamfort, Tout est pop.
La tête au carré sur France Inter.
Un chercheur pop avec nous, Guillaume Dumas, chercheur à l'Institut Pasteur dans l'équipe de génétique humaine et fonctions cognitives pour parler des bases neurogénétiques, par exemple de l'autisme, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous cherchez exactement, tiens, finalement ?
Je cherche plein de choses,
ben oui.
Mais du sens surtout.
Ouais. Vous allez dans plein de directions ?
Ouais, j'ai peut-être cette tendance-là, ouais. Mais c'est, ça peut être la phase exploratoire. Après, il faut être plutôt à essayer de se concentrer. Justement, bah, je dirais que l'autisme, ça a été un bon moyen justement de trouver une thématique qui faisait le lien entre à la fois cette fascination par le fait qu'il y a plusieurs échelles de description dans la cognition et que il faut s'attaquer à ça de manière interdisciplinaire. Et justement, le labo où je suis à l'Institut Pasteur et l'Institut Pasteur en général, c'est un cadre magnifique pour aborder ça, parce que justement Thomas Bourgeron a découvert les gènes impliqués, les gènes candidats impliqués dans l'autisme, et dans son équipe on a des gens qui font de l'anatomie, de la dynamique, etc.
Avec une pratique cellulaire. Clinique aussi du sujet.
Alors on a des cliniciens justement dans le laboratoire, c'est une des grandes particularités d'ailleurs de notre laboratoire, et qui d'ailleurs le mercredi, donc aujourd'hui il y a tous les cliniciens chez nous, et on collabore du coup directement avec eux. Moi j'essaye de monter une plateforme justement à l'hôpital Robert Debré, et c'est un moyen justement de donner du sens aussi, d'avoir ce lien avec la thérapeutique et la clinique.
Alors comment concrètement vous travaillez sur ce thème de l'autisme ?
Alors dans mon cas, il y a deux gros projets. Un premier projet qui était lié directement à mes travaux antérieurs sur cette plateforme, c'est-à-dire de réintégrer les neurosciences de l'interaction sociale dans la compréhension des troubles du spectre autistique, avec l'idée que justement, paradoxalement, mais on en parlera même de point de vue général, mais dans le cadre de l'autisme, c'est aussi très paradoxal. On s'est focalisé sur des composantes très spectatoriales de la cognition sociale, donc plutôt de perception de stimuli sociaux, alors que justement, une des composantes rapportées par les personnes avec autisme, c'est la difficulté souvent de gérer les interactions sociales en temps réel, au quotidien, donc dans un bus, quand on monte et qu'il y a du bruit et qu'il y a quelqu'un qui est dans le... Voilà. Et justement, cette composante-là, elle est dure à étudier dans un laboratoire, mais pourtant, comme elle est essentiellement liée à ces troubles, arriver à trouver des moyens d'aborder ça de manière rigoureuse pourrait apporter des informations essentielles pour les cliniciens.
Donc, alors, c'est ce que vous essayez de faire, précisément, en mettant au point là aussi des méthodes, des techniques, c'est ça ?
Alors, j'ai repris en fait les techniques que j'avais déjà développées pour la recherche fondamentale antérieurement. Donc, typiquement, l'hyperscanning, donc l'enregistrement simultané de deux cerveaux et de deux personnes. Et un autre dispositif que j'avais développé en postdoctorat aux États-Unis, qui s'appelle le Human Dynamic Lamp, qui est un dispositif d'interaction entre un humain et un avatar. Mais cet avatar n'est pas préprogrammé, il est régi par des équations différentielles, donc des équations du mouvement, qui réagit en temps réel en fait à ce que fait l'humain.
Alors j'essaie de comprendre. D'abord, est-ce que l'humain il est autiste ou pas ?
Alors il peut l'être, il peut ne pas l'être, parce que justement il faut aussi qu'on ait des cadres de référence.
Et son avatar, il est où ? Il est sur un écran vidéo ?
Sur un écran vidéo.
Donc
c'est
un jeu ?
En fait, on est parti à la base d'un avatar très, on va dire, terne, en mode laboratoire, scientifique, très cadré et tout ça. Mm-hmm. Mais dernièrement, effectivement, justement, je suis tourné vers le jeu vidéo pour essayer d'aborder ça de manière plus ludique pour les enfants notamment.
Ouais, donc ça, c'est une façon justement de produire des interactions sociales entre un enfant autiste, par exemple, et son avatar devant un écran vidéo. Mm-hmm. Et là, vous étudiez ce qui peut se passer.
Alors, c'est un moyen d'avoir un compromis, en fait, entre la composante interactive, qui est absente la plupart du temps en cognition sociale, aussi paradoxale que ça puisse paraître en neurosciences, et l'hyperscanning, qui est, lui, justement, la technique d'enregistrement de deux cerveaux en même temps. Mais l'hyperscanning, c'est assez délicat à opérationnaliser parce que, en fait, ça multiplie par deux tous les problèmes. Donc, il faut avoir deux participants en même temps au niveau logistique.
D'où l'idée de l'avatar. Alors,
Coup, l'avatar, ça permet de simplifier et de mieux contrôler ce qui se passe. Et en fait, l'idée, c'est que ça, c'est pas nouveau d'avoir un avatar ou un robot. Il y a plein d'équipes qui font ça. Là, l'idée, c'est qu'en plus, cet avatar, il est couplé en temps réel avec l'humain et il n'est pas. Préprogrammé pour faire semblant, comme dans beaucoup de cas. Là, on est sur quelque chose de plus fondamental. On essaye de mettre dans l'avatar ce qu'on sait du fonctionnement de l'humain pour justement faire quelque chose en temps réel.
Mais qu'est-ce que ça provoque alors chez l'enfant autiste, par exemple, qui participerait à votre recherche, qui se trouve face à cet avatar dans ce domaine des interactions sociales précisément? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce que vous attendez de cette expérience?
Alors, on débute, mais ce qu'on attend déjà, c'est de pouvoir avoir une évaluation un peu rigoureuse de la capacité à se coordonner avec autrui. Chose qui est, justement, si on est dans une perspective du développement de la cognition, fondamentale, parce que l'enfant, il se met pas à parler spontanément comme ça. D'abord, il commence à imiter spontanément, il se coordonne temporellement avec ses parents, etc. Et donc, bien comprendre ses capacités sensorimotrices chez l'enfant, déjà, c'est quelque chose d'important du point de vue du clinicien. Et donc, il n'y a pas vraiment d'instrument d'évaluation rigoureux pour ça. Donc ça propose déjà une piste pour avoir un tel instrument. Et après, deuxièmement, ce que ça peut provoquer aussi, c'est on va faire ce qu'on appelle le test de Turing. Donc, on peut demander à la personne, est-ce que vous pensez que c'est un humain qui pilote l'avatar sur l'écran ou est-ce que c'est un robot? Et là, justement, on peut essayer d'évaluer en fait la capacité du participant à déjà se projeter, à essayer de détecter une intention et à juger si c'est humain ou pas ce qu'il voit sur l'écran.
Et ça, Guillaume Dumas, c'est un travail que vous menez avec Robert Debré?
Oui, exactement.
Cette plateforme, elle est au sein de
Robert Debré,
de l'hôpital. Alors, quand vous parlez de synchronisation des cerveaux, ça fait penser à quelque chose dont on a beaucoup parlé à une époque, ce sont les neurones miroirs, justement. Alors, je ne sais pas si l'association est judicieuse ou pas. En tout cas, on va écouter un petit sujet sur les neurones miroirs, extrait d'un site de l'INSERM, et puis on commente ça juste après.
Pour effectuer un mouvement, le corps reçoit des ordres du cerveau. Les ordres sont envoyés par des micro-circuits qu'on appelle neurones moteurs. Nos cousins les singes disposent du même type de neurones moteurs. Il y a quelques années, des chercheurs italiens ont fait une découverte stupéfiante. Lorsque le singe observe quelqu'un qui saisit une cacahuète devant lui, ses neurones moteurs entrent en action comme s'il voulait agir lui-même et faire la même action que celui qui l'observe. Ces neurones moteurs sont des neurones miroirs, à travers eux. Le singe, en regardant quelqu'un agir, se sent agir lui-même en se voyant à travers l'autre, comme dans un miroir. Ces neurones existent probablement aussi chez l'homme. Ils pourraient nous permettre de rentrer dans la peau de l'autre, d'essayer d'agir à sa place, de parler quand il parle pour mieux déchiffrer ses actions. Se mettre à la place de l'autre, se regarder en lui comme dans un miroir, c'est peut-être une bonne manière de le comprendre.
Guillaume Dumas, puisqu'on parle des interactions sociales, alors effectivement, ça a 20 ans, un tout plus de 20 ans, cette découverte des neurones miroirs. Et alors, on a vraiment eu une explosion autour de ce sujet. Ouais. On avait l'impression d'avoir découvert quasiment le Graal,
Ah ben, c'était une découverte qui a comblé la communauté justement qui s'intéressait aux bases biologiques des comportements sociaux, puisque justement il y avait déjà, comme je disais, avant même cette découverte, des gens comme Jean de Céty, Julie Grèze, qui utilisaient l'imagerie cérébrale pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans le cerveau quand on était en contexte social. Et là, en fait, on a l'équipe de Parme a donné un mécanisme à l'échelle cellulaire. Donc, c'est les neuroscientifiques, ils aiment bien quand ça touche le cellulaire. Et finalement, ça répondait tellement à une attente et à quelque chose de mystérieux, mais qu'on soupçonnait déjà, qu'il y a eu une explosion de...
Mais c'était dingue, hein.
Ah oui, d'enthousiasme.
Les neurones miroirs, c'était à toutes les sauces quasiment.
Exactement. Et en fait, c'est le problème des théories aussi qui sont simples, parce que justement, effectivement, la démonstration, il y avait un côté démonstratif avec le singe et la cacahuète. Toute théorie qui est simple se diffuse beaucoup plus rapidement. Et il y a eu un peu le travers aussi, où des disciplines qui n'avaient pas forcément besoin à la base d'appeler aux neurones miroirs, se sont mis à utiliser ça comme un argument d'autorité, donc dans le tout ce qui était management, développement personnel, etc. On le voit maintenant, hein, d'ailleurs, avec les processus décisionnels aussi.
Il y a eu un peu overdose de neurones miroirs quand même.
Donc il y a eu une overdose de neurones miroirs à l'époque, et moi, par exemple, je me suis pas mal attaqué à un problème qui était la théorie des neurones miroirs brisés dans l'autisme, où justement Ramachandran et Lindsay Oberman avaient proposé l'idée que justement l'autisme c'était aussi simple que ça, c'était en fait les neurones miroirs ils marchaient pas. Donc c'est super simple, tout le monde a compris direct. Là ça s'est propagé, des gens ont répliqué l'étude initiale qu'ils avaient utilisée pour faire cette théorie. Et moi j'avais montré que c'était pas aussi simple que ça, mais alors, revenir en arrière après une théorie aussi simple et dire que c'est plus compliqué, c'est pas évident.
Sauf que les neurones miroirs, parce qu'on reçoit beaucoup de neuroscientifiques ici, plus personne n'emploie le terme quasiment. C'est étonnant quand même.
Ça a dû refroidir pas mal.
Vraiment. C'est quelque chose qui est plus du tout au goût du jour.
Non. Bon. Ça montre que c'est des histoires de mode, tout ça.
Bon, on va voir si la synchronisation des cerveaux, c'est aussi une histoire de mode et ce sera avec vous dans un instant, Guillaume Dumas.
Cette fois-là, que voyais-tu dans mon regard écru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. J'ai cru pouvoir
le voir moi,
j'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
J'ai cru pouvoir
le voir moi,
j'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
J'ai cru pouvoir
le voir moi,
j'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
J'ai cru pouvoir
le voir moi,
j'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
De soir en soir.
François M. The Atlas Mountains avec la vérité.
La tête au carré.
Guillaume Dumas, donc de l'Institut Pasteur, pour parler des interactions sociales et des neurosciences et donc de la synchronisation des cerveaux avec une étude dont on a parlé il n'y a pas très longtemps ici, puisque vous l'avez réalisée entre autres avec une équipe de l'Université du Colorado et de Haïfa sur la douleur et l'empathie. Alors racontez-nous, parce que vous avez convoqué des couples d'amoureux, c'est ça ?
Alors pas moi, mais notre collègue Pavel Goldstein justement avait convoqué des couples d'amoureux pour faire cette étude.
Le but c'était de voir quoi alors ?
Alors le but, en fait, il faut replacer l'anecdote parce que c'est assez marrant de voir comment la science ça peut être des histoires de coïncidence. Donc je donnais un séminaire sur ces synchronisations de cerveau et Pavel Goldstein venait d'avoir son enfant où il avait touché la main de sa femme pendant l'accouchement et lui il travaille sur la douleur. Moi je suis pas du tout sur cette thématique-là et en voyant mon séminaire plus la coïncidence avec son accouchement, l'accouchement de sa femme, etc. Il a dit mais il faut qu'on fasse une étude là-dessus. Et donc c'est là qu'est venue cette idée de reproduire. Alors, on n'a pas fait
sur le pouvoir du toucher, on pourrait.
Oui, sur le pouvoir du toucher dans la diminution de la douleur. Alors bien sûr on n'est pas allé dans des salles d'accouchement faire nos enregistrements, ça aurait été un peu trop compliqué. Mais on a pris des couples d'amoureux quand même. Et il y a eu des études aussi qui ont été faites avec un quelqu'un qui n'est pas du couple, pour voir si justement le fait d'être en couple romantique avait un effet ou pas sur cet effet analgésique du toucher.
Romantic partners, hein, c'est
voilà,
ça.
Voilà, romantic partners, voilà. Alors après, on n'est pas allé plus loin dans le est-ce que ça allait bien dans leur couple ou pas, mais ouais. Ça peut jouer aussi. Là, du coup, c'était vraiment essayer de comprendre comment ce toucher affectif pouvait avoir des répercussions sur la perception de la douleur.
Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez tapé avec un marteau sur la main d'un des deux amoureux ?
Non.
Qu'est-ce que vous avez
fait ? En laboratoire.
Vous avez chauffé, hein,
c'est ça ? Oui, c'est avec une résistance donc, qui pouvait chauffer fortement ou pas fortement. Bon, même
sans
très
brûler.
Fort. Sans brûler, oui. En fait, le partenaire devait déjà évaluer le niveau de chaleur qui était de l'autre côté. Donc ça mesurait une forme d'empathie objectivement, donc la capacité à deviner ce niveau de douleur. Et après, il y avait un jugement de la douleur ressentie par la personne qui avait la stimulation. Et on faisait la différence entre le niveau objectif qui était dans la résistance et le niveau ressenti de la personne. Et donc, avec ces deux mesures, déjà, on pouvait comportementalement quantifier à la fois cet effet d'analgésie du toucher, et en même temps corréler ça avec la capacité de rentrer en empathie avec l'autre.
Et alors, qu'est-ce qui se passait alors quand on chauffait le bras du partenaire ?
Alors ce qui se passe, c'est que déjà, ça c'était déjà une étude, une première étude qui a montré qu'effectivement le toucher avait un effet analgésique, mais en soi ça peut être purement attentionnel, c'est-à-dire qu'au lieu de faire attention à sa douleur, on fait attention à la personne qui nous touche, et donc du coup ça détourne notre attention, donc ça ok.
C'est-à-dire que pendant que la chaleur est exercée sur le bras du partenaire, l'autre partenaire tenait
la main.
Hein.
Voilà, exactement. Et après aussi avec un inconnu aussi, donc il y a plusieurs paramètres en jeu. Mais donc du coup, l'idée, c'est que pour corriger en plus juste l'effet attentionnel, on a aussi mesuré à quel point le fait que le partenaire qui touchait était empathique ou non, pouvait ou pas affecter cette diminution de la douleur. Et c'est le cas. Donc, indépendamment même
Le fait de toucher son partenaire diminue la sensation de douleur de l'autre.
Et en plus, la capacité d'empathie de la personne va aussi moduler cet effet-là. Donc ça, c'est déjà un résultat en soi qui est intéressant, indépendamment de tout enregistrement cérébral.
Et alors, quand vous mettez un technicien à la place du couple, enfin d'un des partenaires amoureux...
Du coup, cet effet est diminué.
Cet effet est diminué, c'est-à-dire qu'on ressent plus la douleur.
Voilà, exactement. Donc du coup, ça déjà, en soi, c'est un résultat qui est intéressant. On a dû faire une étude d'ailleurs complémentaire pour bien montrer que c'était stable, etc. Mais... par exemple, pour les praticiens, les médecins et les personnels soignants, c'est un résultat aussi intéressant.
Il y a un message de Robert qui nous dit « J'ai lu votre étude, Guillaume Dumas, récemment. Je me posais la question d'un biais possible quant au toucher du technicien, justement, par rapport au partenaire du sujet. Qu'en est-il du toucher d'un soignant dont l'outil est la main ? Je suis ostéopathe et enseignant. Serait-il possible que la main de ces praticiens ait la même efficacité que celle des partenaires ?»
Ah ben ça, c'est une très bonne question. On ne l'a pas fait, ça, mais justement, je pense que quelqu'un qui est habitué, justement, à avoir ce toucher thérapeutique, pas affectif. Enfin, après, il y a une dimension peut-être affective quand même. Mais oui, ça peut jouer. Je pense c'est même pour montrer dans notre étude qu'il y a cette composante humaine qui est quand même essentielle.
Donc c'est les pouvoirs de l'empathie aussi, c'est ça ?
En tout cas, l'empathie module ce phénomène.
Il y a ce terme de toucher social qu'on emploie aussi aujourd'hui, qui est très exploré finalement. Parce que là, il y a des pistes hyper intéressantes qui s'ouvrent.
Ben, moi, je n'ai pas travaillé directement là-dessus. Là, pour cette étude, du coup, c'est moi qui me suis chargé après de l'étude des signaux cérébraux. Mm-hmm. Où, en plus, on montrait qu'il y avait justement ce phénomène-là qui s'accompagnait de plus grandes synchronisations entre les cerveaux des deux personnes. Mm. Après, sur le toucher social, ce qui est intéressant, c'est que le toucher, c'est un sens aussi qui est très primordial d'un point de vue développement. C'est peut-être un des premiers sens qui est présent chez le fœtus, quoi.
Alors justement, donc, Guillaume Dumas, puisque vous parlez de synchronisation des cerveaux, qu'est-ce qu'on observe justement chez deux partenaires amoureux dans leur cerveau ? Alors, il y a des choses qui fonctionnent exactement de la même manière ?
Alors, en fait, même là, maintenant, entre nous deux, sans qu'on soit des partenaires, on a aussi un environnement commun. Donc déjà, on est synchronisé par le fait de partager cet environnement-là. On a les mêmes lumières autour, etc.
L'horloge qui tourne,
etc. Ah, voilà. Ouais. Après, il y a une composante qui est, on fait une tâche similaire. On est tous les deux en train de parler.
Voilà. Et de se regarder.
Donc ça aussi, ça contribue à ce que ça synchronise. Et là, en fait, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y avait aussi une composante émotionnelle et affective qui pouvait se rajouter à tous ces facteurs-là qui contribuait déjà à synchroniser les cerveaux. Donc, faut pas croire que c'est pas synchronisé et synchronisé pour les couples romantiques. Mmh. C'est un gradient. Et justement, moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est tous les facteurs sous-jacents à ces synchronisations.
Ouais. Donc, ça marche aussi pour un animateur radio avec son invité au micro de France Inter, aussi, par exemple. Alors, c'est amusant parce que lundi, on recevait justement une pédiatre. On a beaucoup parlé du toucher peau à peau dans l'émission. Okay. Ça confirme tout à fait ce qu'on évoquait, c'est-à-dire l'importance aussi du contact entre la mère, le père aussi et l'enfant.
Ouais, en tout cas, le toucher, c'est un sens, comme je disais, assez primordial. Il y a même une étude assez intéressante sur des fœtus jumeaux qui interagissent dans le ventre de leur mère. Ça a été pris en vidéo même en IRM, c'est assez impressionnant. Donc on voit que même la socialité peut se développer en prénatal.
Ouais.
Par le toucher, justement.
Incroyable.
Ouais, c'est assez
fou. Donc là, il y a des pistes de recherche extraordinaires, non ?
Ben moi, comme encore une fois, j'ai tendance à me disperser, mais le toucher, oui, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant.
Oui, parce qu'on aurait pu parler de l'intelligence artificielle aussi avec vous. Hein. Ça, c'est des questions qui vous intéressent. Mm-hmm. On aurait pu parler du neuromarketing aussi.
Ah oui, ça
c'est quoi ? C'est les dérives un petit peu aussi des neurosciences aujourd'hui qu'on peut utiliser pour des raisons purement commerciales.
Ouais, mais c'est en fait la géométrie variable des cadres éthiques quand on est pour faire de la recherche publique ou quand on est sur de la recherche privée.
Ouais.
Et nous, quand on fait des études justement avec des patients, ben, on passe devant des comités d'éthique, on fait signer des consentements, enfin, c'est normal quoi. Quand on est une entreprise, on a plus de facilité à faire ce genre de choses sans avoir forcément un cadrage éthique, alors que pourtant, les objectifs ne sont pas du tout les mêmes.
Oui, quand on veut influencer nos cerveaux, quand on est par exemple un vendeur de boissons gazeuses, on peut le faire très facilement parce qu'on peut agir comme ça sur les mécanismes.
C'est l'exemple de Coca et de les premières études justement de planter un petit drapeau dans le cortex préfrontal des gens ou juste avec le logo on procure l'envie d'acheter ou de boire sans avoir à...
Sans passer par le goût, ça supplante presque le goût.
Ben, c'est l'objectif des publicitaires, c'est d'être dans le...
C'est que la marque soit
la marque soit plus forte que le reste. Hein, mais justement, ça pose des questions au niveau gouvernance, au niveau liberté individuelle. Et justement, réusage de connaissances qui sont plutôt liées normalement à améliorer l'espèce humaine pour au contraire la servir à d'autres décisions et d'autres agendas. Quoi.
En tout cas, le champ est vaste dans ce domaine des neurosciences et vous l'explorez visiblement avec délice, Guillaume Dumas.
Avec plaisir.
Avec votre équipe donc de l'Institut Pasteur, équipe génétique humaine et fonction cognitive. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. On voulait faire connaissance avec vous cet après-midi dans la tête au carré, puis donner un aperçu justement des recherches que vous menez. Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
C'est terminé pour l'émission. Merci à Grégory Wallon et Élise Christophe qui étaient aujourd'hui à la technique. Demain, on parlera transhumanisme avec le paléoanthropologue Pascal Pic.